France Inter.
Vous écoutez France Inter, nous sommes le vendredi 26 septembre 2025 et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd. Le 5-6.
Bonjour à toutes et tous, ravis de vous retrouver en ce petit matin. Au programme du 5-6 aujourd'hui, de la lumière, des salles obscures, de la sensualité ou pas, un gros plan sur la Moldavie et de la mode aussi. Lumière marine avec l'autrice Gwenaëlle Abolivier dans les chroniques littorales. Les salles obscures, ce sont celles du festival de courts-métrages qu'organise notre invité déjà debout dans le Vaucluse. Ce sera à 5h45. La sensualité ou pas, hein, plutôt, c'est la chronique de Tanguy Pastureau, c'est aussi la corvée de sexe expliquée dans la chronique. D'où ça sort, vous verrez. Et pour se guérir de tout ça, la douceur de Jalen Gonda dans la playlist de Mathieu Conquet. On sera aussi en Moldavie avec des élections législatives sous influence russe et au premier rang des défilés juste avant 6h avec un café philo consacré à nos vêtements. Voilà le menu, je vous accompagne sur France Inter jusqu'à 9h. Et on démarre avec le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Nicolas Sarkozy connaîtra la date de son entrée en prison dans un peu moins de 3 semaines.
Le 13 octobre, a priori lors d'une convocation par le parquet national financier. Son placement en détention devrait intervenir en théorie dans un délai de 4 mois à compter de cette date. L'ancien président de la République a prévu de faire appel, mais ça n'empêchera pas son incarcération. Condamné à 5 ans de prison hier, donc par le tribunal de Paris, reconnu coupable d'associations de malfaiteurs pour avoir laissé ses plus proches s'entretenir avec la Libye de Muammar Kadhafi dans le but de financer sa campagne victorieuse de 2007. Sarah Guibaudot.
En 2005, Brice Hortefeux et Claude Guéant se rendent à Tripoli. Ils rencontrent en secret Abdallah Senoussi, le beau-frère de Muammar Kadhafi. Pour le tribunal, un pacte de corruption a été noué. Nicolas Sarkozy a laissé ses proches collaborateurs solliciter les autorités libyennes pour obtenir des soutiens financiers. À ce moment-là, il n'est pas certain d'avoir l'investiture et donc le financement de l'UMP. Les Libyens misent sur le potentiel futur président dont ils attendent des contreparties. L'association de malfaiteurs est constitué, même si la présence d'argent libyen n'a pas été établie dans la campagne, car cette infraction doit justement faire obstacle à la corruption. En fait, cela ressemble à l'affaire des écoutes de la Cour de cassation. Le magistrat, sollicité par Nicolas Sarkozy, n'avait pas obtenu le poste qu'il espérait à Monaco, mais l'ancien président a été condamné, 1 an ferme, et sa difficile prise de conscience a pesé dans la peine prononcée hier.
Nicolas Sarkozy dénonce une lourde peine infligée, dit-il, par haine. Les réactions à cette condamnation sont multiples et de tous bords. Eva Joly, avocate, ancienne magistrate, candidate écologiste à l'élection présidentielle de 2012, estime que la ligne de défense de l'ancien chef de l'État est une attaque envers les institutions, envers la démocratie, et parle d'un discours complètement trumpiste. Il avait été nommé par Barack Obama avant de devenir l'une des bêtes noires de Donald Trump. L'ancien directeur du FBI, James Comey, vient d'être inculpé, notamment pour entrave à la justice aux États-Unis. « Je n'ai pas peur », dit-il dans un message sur Instagram, « la peur est l'arme des tyrans ». James Comey avait été limogé en 2017 par Donald Trump, alors qu'il enquêtait sur de possibles liens entre l'équipe de campagne du candidat républicain et des hackers russes. Direction New York pour le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, attendu aujourd'hui à la tribune de l'ONU pour s'élever contre ceux qui soutiennent un État palestinien. Il s'est entretenu avec Donald Trump hier. Le président américain l'a mis en garde contre une annexion de la Cisjordanie occupée. « Je ne le permettrai pas, cela n'arrivera pas », a déclaré Donald Trump, qui n'avait pas encore pris publiquement position sur le sujet. Quels moyens de défense l'Union européenne peut-elle mettre en place face aux incursions aériennes? Le 10 septembre dernier, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait évoqué l'idée d'un mur anti-drone, proposition qui sera discutée, approfondie ce vendredi lors d'une réunion avec 7 pays du vieux continent, la plupart voisins de la Russie. Le Danemark a été ajouté à la liste après des survols répétés d'origine non identifiée. Le président Emmanuel Macron assure que la France est prête à contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois.
Dans le Cher, la Haute-Garonne, les Ardennes, le Pas-de-Calais, les agriculteurs se mobilisent un peu partout en France.
Une centaine d'actions à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs prévues aujourd'hui dans des grandes surfaces, sur des ronds-points, avec dans le viseur, Mariam El-Kurdi, le Mercosur, le projet d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Amérique latine.
S'il est appliqué, l'accord du Mercosur, selon les syndicats, ouvrira la porte à une concurrence déloyale qui mettra en péril des élevages français. Les chiffres vertigineux, 180 000 tonnes de volailles, près de 100 000 tonnes de viande bovine d'Amérique du Sud entreraient dans l'Union européenne. Vincent Châtelier, économiste spécialiste des questions agricoles, les nuances.
C'est 1,5% de la consommation. Tout est une question de proportion dont les propos contiennent. Ce n'est pas la remise en cause de l'intégralité de l'élevage en France, comme on l'entend parfois dans des propos non contenus.
Mais le débat sur le Mercosur arrive précisément au moment où la balance commerciale française se détériore par rapport aux voisins européens. C'est là le vrai problème, selon l'économiste.
Notre problème, c'est le décrochage productif en France. En fait, on n'importe pas parce que les pays sont concurrents, on importe parce qu'on produit moins. Si on raisonne depuis 2000, la consommation française de volailles a augmenté de 35%. La production a baissé de 20%.
Et les principaux importateurs sont européens, certains pays plus compétitifs, la Pologne sur la volaille par exemple. Réaction d'Hervé Lapi, secrétaire général de la FNSEA.
Si on assure un revenu aux éleveurs de poulets décent chez nous en France, on va relocaliser la production.
D'ailleurs, dans les cortèges, il est plus souvent question de revenus que de concurrence du Brésil.
Et les syndicats insistent, cette journée de mobilisation n'est pas faite pour bloquer, mais pour faire surtout de la pédagogie directement auprès des consommateurs. L'internat du lycée Paul Héroux de Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, touché par des légionelles. Des analyses ont été réalisées dans l'établissement et elles révèlent un taux de bactéries supérieur au seuil de référence. 3 internes présentent des symptômes légers d'après le rectorat. Au total, ce sont 200 élèves qui ont été renvoyés chez eux à la mi-journée. Des bus avaient été spécialement affrétés. Mélanie Tournadre, l'internat restera fermé jusqu'au 2 novembre.
C'est-à-dire jusqu'à la fin des vacances de la Toussaint. Anaëlle, 16 ans, élève de terminale, est interne au lycée de Saint-Jean-de-Maurienne. Elle n'est pas très inquiète pour sa santé. Pour le moment, elle ne présente aucun symptôme de la légionellose. Mais c'est sur le plan scolaire que cette situation l'angoisse.
Ouais, je stresse un peu, ouais, pour les cours, pour les rattraper surtout.
L'adolescente habite à Bessan, 65 km du lycée Paul Héroux, 1h15. Sa maman Karine est dépitée.
3 semaines, on fait comment? On n'est pas prêt de faire tous les jours des allers-retours.
C'est pas gérable, quoi.
On veut des bus, matin et soir.
Le proviseur du lycée a fait savoir aux familles hier soir que la continuité pédagogique sera assurée pour les internes qui ne parviennent pas à venir au sein de l'établissement. Mais ce n'est pas suffisant pour cette maman très inquiète.
On va faire les cours en visio pendant 3 semaines. On a connu ça pendant le Covid, c'est mort, quoi.
Puis surtout qu'elle passe le bac cette année, quoi.
Sa fille va peut-être pouvoir compter sur des amis qui habitent près de Saint-Jean-de-Maurienne, mais qui ne pourront clairement pas l'héberger jusqu'aux vacances. Comme Anaëlle, près de 200 élèves internes s'apprêtent à vivre 3 semaines de galère.
Mélanie Tournadre, d'ici Pays de Savoie, au lycée, les cours auront lieu normalement ce vendredi, à l'exception du bâtiment de la section hôtelière relié au bâtiment de l'internat, également fermé par précaution. Le sport, le football, première journée de Ligue Europa, victoire de Lyon sur la pelouse d'Utrecht aux Pays-Bas 1-0. Lille s'est imposée contre Brandbergen 2-1.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Rendez-vous dans 22 minutes, Anne-Sophie, pour un nouveau point sur l'info. Il est 5h08 sur France Inter. On passe à la météo.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Toujours très automnal, Elodie Calac.
Une journée bien automnale de l'Alsace et de la Lorraine vers le nord des Alpes. Le ciel est couvert avec des pluies. Il neige au-dessus de 1900 mètres. Quelques pluies aussi de Champagne-Ardenne vers le bassin parisien, le centre-val de Loire et le massif central. Des Hauts-de-France vers la Normandie, la Bretagne, la Vendée, les Charentes et le sud-ouest. Là, pas mal de nuages, parfois une averse. Quelques éclaircies appréciables tout de même. Le soleil va s'imposer cet après-midi sur le sud de l'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. En Méditerranée, le soleil s'installe dès ce matin. Une petite averse reste possible en Corse. Les températures sont toujours bien fraîches. Ce matin, comptez 5 à 10 degrés le plus souvent. Cet après-midi, 13 degrés à Mulhouse, 14 à Metz, Auxerre, Limoges, 16 degrés à Cambrai, à Caen, Paris, Angers ou Lyon, 18 à Brest et à Bordeaux, 19 degrés à Toulouse ou Marseille et 25 à Ajaccio. Une amélioration va se dessiner pour le week-end avec plus d'éclaircies. Quelques gouttes sur la Bretagne samedi, elles traverseront le nord dimanche et on se rapprochera des températures de saison l'après-midi.
Élodie Calac de Météo France.
France Inter. Marion Lourd.
5h09, à suivre sur Inter, une autrice qui écrit à l'encre marine dans les chroniques littorales. Notre invitée déjà debout organise chaque année un festival de courts-métrages à Entraigues-sur-Sorgue dans le Vaucluse, elle nous en parlera. On vous explique aussi la corvée de sexe dans la chronique d'où ça sort. Et puis, ça sera l'humour de Tanguy Pastureau à 5h25. Mais avant tout ça, Amore, c'est le nom de l'artiste espagnole qu'on écoute tout de suite. Elle chante Last Maria on Earth. Bon réveil sur Inter. Last Maria on Earth de la chanteuse Amore, titre sorti cette année. 5h12 sur France Inter. C'est l'heure de passer aux chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Vous recevez une autrice qui trempe sa plume dans l'eau salée.
En la personne de Gwenaëlle Abolivier, Marion. Gwenaëlle Abolivier est une journaliste, une auteure. On se souvient dans Le Monde Maritime de son livre « Tu m'avais dit Ouessant ». Quand Gwenaëlle, à l'hiver 2015, vécut 3 mois dans le sémaphore de l'île d'Ouessant, un voyage immobile sous le phare du Créac, une exploration insulaire dont on ne revient pas indemne. Bonjour Gwenaëlle à Bolivier.
Bonjour José-Manuel.
En breton, on dit des maths, hein, c'est ça?
Des maths.
Des maths, oui, vous venez de Bretagne. Alors, Gwenaëlle à Bolivier, on comprend déjà dès le prénom, tout est dit, c'est le passeport. Qu'est-ce que c'est la mer pour vous?
La mer, vous savez, j'ai grandi avec la mer, avec et pour la mer.
Où cela?
Alors, j'ai grandi à Rennes, où je suis née, mais quasiment tous les week-ends, on partait en bord de mer sur la côte d'Emeraude, non loin de Saint-Malo, à Saint-Briac précisément, qui est vraiment le village à la fois de ma famille maternelle et paternelle. Donc, j'ai grandi là. Mes parents ont eu la bonne idée, quand j'avais 6-7 ans, de m'envoyer à des cours de voile sur le petit optimiste qui m'a fait naviguer comme ça au-delà du château du Nessay. Et c'est vrai que la mer, c'est une évidence depuis toujours.
Vous avez les lèvres salées. Hein.
C'est un peu ça.
Alors vous êtes journaliste parce qu'on vous a rencontré aussi à France Inter et ailleurs. Et vous continuez vos reportages, là vous êtes, on va dire, indépendante, mais vous continuez par exemple auprès des pêcheurs et des femmes qui pêchent.
Des femmes marins pêcheurs. C'est vrai qu'après de longues années à Radio France, France Inter, hein, vous vous souvenez, lorsqu'on s'est croisés pour la première fois, j'avais pas tout à fait 24 ans et très vite, avec le Nagra sur l'épaule, je suis partie en effet très souvent finalement en bord de mer, hein, sur les îles du monde entier, sur les paquebots, sur les ports porte-containers, sur les express côtiers.
Vous êtes une fille des îles, hein?
C'est ça aussi.
Vous êtes une insulaire. Hein.
Sur les îles. Alors, Ouessant, c'est type du Ponant. Et puis, par la suite, toutes les îles, finalement. Et celles aussi du monde entier. Hein, les îles Marquises, les îles Éoliennes. Enfin, là, c'est vrai que j'aime ces cailloux comme ça.
Les cailloux, le littoral, les îles, la houle. Tout ça, c'est vos racines.
C'est ça, c'est le vent du large. Ça appelle tellement, finalement, à aller voir au-delà de l'horizon. C'est comme ça que je me suis construite, finalement. Toujours un petit peu repousser les limites et aller voir ce qui se passe ailleurs, rencontrer les hommes et les femmes et y trouver aussi les points communs. Alors, actuellement, je travaille sur les femmes marins-pêcheurs, oui. En effet. Donc, ces femmes qui, bien souvent, travaillent soit seules ou bien avec un compagnon, avec un matelot, et sont, en ce qui concerne leur travail, plutôt sur une pêche artisanale. Donc, de ces petits bateaux qui vont voilà, caboter le long des littoraux. Alors, il y a des femmes formidables, hein, à commencer par Scarlett Lecor, qui se trouve au Guilvinec, dans le sud Finistère. Puis, il suffit d'aller sur le pourtour français, on en trouve quand même de nombreuses de ces femmes courageuses.
Les femmes du littoral, les femmes de la Grande Bleue, ces femmes éternelles, hein, parce qu'à l'époque, elles regardaient partir le mari à la pêche, puis elles attendaient le retour et il fallait gérer toute la famille.
Voilà, c'est vrai, souvent ces familles de pêcheurs ou de marins, ce sont des femmes qui tenaient tête à la famille et qui tenaient un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que le portrait de ces femmes marins pêcheurs, on constate qu'elles prennent aussi leur destin actuellement. Donc elles passent par les écoles de pêche.
Des lycées maritimes.
Voilà, tout à fait.
Très important. Aussi. Un futur livre, Gwenaëlle ?
Alors justement, j'y travaille. Donc là, j'ai de nombreux portraits. Je passe souvent par la radio. Donc je réalise des entretiens à partir desquels j'écris des textes que j'ai présentés d'ailleurs cet été dans un petit festival de poésie à Saint-Jacques-de-la-Mer, donc pas très loin du Cap Fréhel. J'ai présenté ces textes, mon éditeur du mot et du reste est intéressé, donc c'est en bonne voie.
Merci à vous Gwenaëlle Abolivier. Votre ouvrage, je le rappelle, hein, Tu m'avais dit où essence, c'est chez Le Mot et le Reste, et c'est passé en pocket, là, édition pocket. Il faut absolument le lire. Et nous, on va se voir bientôt, j'espère. Kenavo.
Kenavo, José-Emmanuel. À bientôt.
Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José-Emmanuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
Et il y a un visage à la une de toute la presse ce matin, celui de l'ex-président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné, vous le savez, hier à 5 ans de prison pour association de malfaiteurs avec mandat de dépôt, le tout dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Alors chaque titre le traite à sa façon et chacun choisit sa photo. À gauche, la tôle, titre Libé en grosses lettres, qui barre la une du journal et dessine des barreaux sur le portrait de Sarkozy. Case prison, martèle l'Humanité, avec un visage de l'ex-chef d'État creusé et ridé par un jeu d'ombre. La croix fait sobre, photo prise de plus loin avec ce titre, un président en prison. Plus à droite, c'est la déflagration, mot fort choisi par le journal L'Opinion avec ce dessin de CAQ. Encore une fois très réussi, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen s'adressent à un juge du parquet financier tout étonné. Condamner un ancien président, s'énerve Nicolas Sarkozy. Et une future, renchérit Marine Le Pen, également très remontée. Pour le Figaro, cette condamnation, c'est un séisme. Il est question, sous une image plus flatteuse, d'un ancien président qui clame son innocence et de la sévérité, je cite, d'un jugement historique. Les Échos, eux, parlent d'une condamnation choc. Ils montrent Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, mais aussi la forêt de micros et de caméras, et varient un peu leur sujet. Auto, le défi de la baisse des prix, c'est la manchette. Sinon, dans le même groupe de presse, un seul journal vous manque et tout est dépeuplé. Le personnel du Parisien aujourd'hui en France est en grève jusqu'à ce soir pour s'opposer à un projet de vente du quotidien au groupe Bolloré et réclamer 17 embauches en CDI. Les salariés craignent de voir livrer leur titre à une idéologie militante d'extrême droite et la pluralité de l'information s'appauvrir. Pas de Parisien papier ce matin, donc, ni le magazine du Parisien, petit plaisir du week-end. Revenez vite, chers confrères, car vous nous manquez.
Et vous n'avez pas envie. Oula. Fatigue, routine, flemme ou simplement pas le désir, mais vous le faites quand même parce que bon, ça se fait. Qu'on ne peut pas dire non tous les soirs, parce qu'il paraît que ça entretient le couple aussi. Car on va le voir, cette corvée, elle repose surtout sur les épaules des femmes. Cette notion de corvée de sexe, elle a plusieurs racines. Il y a d'abord les explications sexuelles. Depuis les années 1990, la recherche parle de désaccord de désir. Quand un partenaire accepte un rapport sans en avoir envie, par peur du conflit ou pour préserver l'intimité du couple. Cela n'est pas sans conséquence, puisque se forcer entraîne de la fatigue émotionnelle, de la perte progressive de désir et de la souffrance psychologique.
Et c'est là qu'il faut bien distinguer cette corvée de sexe de la notion de devoir conjugal dont on a déjà parlé dans cette émission.
C'est vrai, mais la notion de corvée de sexe cristallise un héritage, l'injonction faite aux femmes, d'assurer la disponibilité sexuelle même au prix de leur propre désir. Elle est beaucoup discutée depuis le mouvement MeToo et heureusement, mais pas partout et pas par tout le monde. Les injonctions à entretenir le couple pèsent sur les femmes, rarement sur les hommes. Alors, d'où ça sort la corvée de sexe ? Eh bien, de cet héritage, et ce n'est que le début de notre histoire.
Voilà, petit problème technique, c'était la chronique de Zoom Zoom Zen sur le devoir conjugal, enfin qu'on appelle la corvée de sexe aussi, donc l'explication de Cyril Lacarrière qui nous a expliqué d'où sortait cette idée de corvée de sexe. Cyril Lacarrière qui est dans l'émission de Mathieu Noël et ils reviennent à 16h cet après-midi, zoom zoomé sur la sobriété heureuse, tout autre sujet, avec le moine bouddhiste Mathieu Ricard. 5h20 sur Inter, dans un instant l'humour et le journal, mais tout de suite le retour d'Oxmo Puccino en duo avec Turi et c'est magique. Oxmo n'en a pas fini avec la musique, il le prouve en dévoilant son clip, ce qui s'appelle donc Magique et qui devrait sortir en octobre prochain.
Laisse tomber la pluie petit, pas assez de soif ni d'appétit, tu vaux que dalle face à tout ce bruit. Tellement de galères téléphonées, à force de les voir venir, je fais l'étonner. Le bonheur c'est pas le cul ni les thunes, le manque d'amour fait de nous des sujets d'études. Je relève tous les défis, terre plate, fusée, typhus, info diffuse. L'usine d'à côté privatise l'eau, cause des maladies chroniques et on oublie tout à Noël. Ce soir il pleut, qu'est-ce que t'es belle, mets ton pyjama, on sort pas de l'hôtel.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique, tout est magique. Quand tu sais confier tes secrets à un piano.
Bad boy avance, bouche close. Ceux qui n'ont rien fait ne parlent jamais bien de ceux qui font les choses. Pas de seconde à perdre, laisse-moi kiffer tranquille. Trop de causes défendues me font siffler. Donner son avis, tout le monde s'y met. L'art est difficile, les postes font s'y mettre. Quand on pourrait se taire. À l'heure où je te parle, une bombe est larguée quelque part. Si 30 likes valent une vie, clique pour la planète. Ramasse les paillettes, rien dans l'assiette. J'suis né au bord du désert, un jour de pluie. Y'a ce qui t'inspire et ce que le sort te réserve.
J'ai juste eu le temps d'éteindre la putain de mégo. Et 9 mois après, je marche sur des Lego. J'entends les noms d'oiseaux que l'on prête à tous ces poètes.
Aïe, aïe, aïe.
Je suis juste un super héros devant une supérette qui refait le monde autour d'une cigarette magique. Tout est magique, tout est magique. Quand tu sais confier tes secrets à un piano.
Oxmo Puccino et Turi, ça s'appelle Magique, cet extrait du prochain album d'Oxmo Puccino, attendu donc pour le mois prochain.
France Inter.
À 5h23, Tanguy Pastureau maltraite l'info, et ce matin surtout le porno.
C'est difficile à croire, mais jusqu'à récemment, il y avait très peu de porno. Pour moi, quand j'étais jeune, déjà voir une femme nue, c'était très compliqué. Il fallait acheter un magazine. À l'époque, tous étaient spécialisés. Il y en avait sur les femmes nues, d'autres sur les fleurs, d'autres avec des recettes de cuisine. Moi, par timidité, je n'osais pas acheter ceux avec les femmes. Je me suis retrouvé avec 1000 journaux de recettes. Hein, ma découverte du désir s'est faite autour de la dope provençale. Ça m'a posé 2-3 soucis quand j'allais sur Marseille. Je commençais à me déshabiller en terrasse des restos, en léchant mon assiette de daube avec trop d'empressement. Et aujourd'hui, il y a du sexe partout. Les pop stars n'ont plus de vêtements, des marchés colos sans doute. Il y a des plateformes de X avec des millions de vidéos. Maintenant, il y a un filtrage selon l'âge. Daniel m'a raconté, votre cam prend une photo de vous et une IA détermine si vous êtes majeur ou pas. Il ne faut pas avoir l'air trop jeune. Jack Lang, ça fait 15 jours que l'IA fait... Il ne faut pas mettre en 15 ans votre front 14. Mais bon, avant du X, il n'y en avait que sur Canal+. C'est vrai, c'est pour ça que les gens s'abonnaient en fait. Ils vous disaient que c'était pour le cinéma d'auteur et tous les matins descendaient à la supérette prendre 18 rouleaux de sopalin. Moi, j'étais naïf, je me disais bah dis donc, les films d'André Téchiné, ils font pleurer apparemment. Et sur M6, chaque dimanche soir, Je ne sais pas si vous vous souvenez, les vieux, il y avait un film érotique, après Culture Pub. Tout était suggéré, hein. Un peu de brouillard, un bout de téton, on aurait dit le prince William perdu dans Londres un matin d'hiver. Une intrigue datée, souvent des séjours en Afrique avec des chefs de village pervers qui butinent des exploratrices des dames blanches. Pas la glace, hein, les vraies dames. Aucun Africain ne fait l'amour à une glace, il fait 44 degrés en Afrique. Tu finis par t'accoupler à une flaque, donc autant rester à Dieppe, attendre qu'il pleut. Bref, je pensais que l'érotisme, que je préfère au porno, parce que j'aime la suggestion dans tout, je préfère qu'on me dise que Gims existe plutôt que de l'écouter. Moi, je pensais que c'était fini. Eh ben non, les copains. Revival 90, les To Be Free, ça revient. Le Loft, il y a une série. Ouais. Je pense qu'ils vont aller chez Point P pour reconstruire le mur de Berlin, juste pour le plaisir de le faire tomber à nouveau. Et le téléfilm érotique, lui aussi, est à l'antenne, comme disent les vieux, parce qu'il n'y a plus d'antenne. Je pense même que les escargots sont passés à la fibre. Oui, une blague incompréhensible. Je refuse que cette carrière prenne trop. Ah, donc, il faut décourager le public. Donc, en fait, alors, je vous rassure, l'érotisme est contenu. Hein. TF1 n'a pas prévu de lancer une édition de Koh-Lanta où les candidats en sueur se frotteraient au poteau. Il y a juste un téléfilm coquinou par semaine, tard le dimanche, et en plus sur C-Star, une chaîne du groupe Bolloré que personne ne regarde. Il y a surtout là-dessus des clips de rap, donc on sent que Vincent Bolloré n'est pas lui-même à la manœuvre. Il a dû refiler ça à son petit-fils qui est en seconde. On le voit parce que parfois, sous les clips, il y a des dédicaces et qu'en général, c'est écrit « Wesh, celle-là, elle est pour les frères Hot, Kelly et Rose de la 6ème B hein, » et c'est signé Lilou sur la chanson « Fuck me by the bottom » de DJ Hot. Donc en général, on est loin de Jacqueline et Hortense, les deux nonnes de Valenciennes invitées sur CNews. Et donc, le dimanche soir, il y a de l'érotisme. Rien de sale, juste un léger parfum de sensualité. Parce que maintenant que Bernard de la Villardière a pris un coup de vieux, c'est la seule possibilité d'être émoustillé le dimanche soir. Et il reste des gens pour fantasmer à l'ancienne. C'est revoir une cuisse et imaginer le reste, tel l'éleveur de poulet pas tactile avec ses bêtes. C'est rassurant à notre époque, non ? Où tout est montré. Peut-être qu'une France de demain est en train de se dessiner, une France polissonne, une France qui frissonne. Remballez-moi ces pénis dans lesquels on a injecté de la graisse de bison. Remettez-les, ces culottes. Ensemble, on va se reparamétrer avec des scénarios mignon. Dimanche, C-Star est arrivé 3e chaîne de la TNT avec le film Les filles de l'ambassadeur. Il y a eu 150 000 téléspectateurs, mais il n'y a tellement plus personne qui regarde la télé que ça fait de C-Star la 3e chaîne la plus vue. Et c'est un début. Moi, je suis pour que tout redevienne érotique à la télé. Élise Lucet. Dans Cash Investigation. Ne pourrait-elle pas dire à un millionnaire en évasion fiscale « Bah alors Patrick, on a fait son voyou. »
Non.
Hein, c'est plus sexy que ses reproches permanents. Là. Même le JT de 20h, il y a de l'humidité dans le sud. Beaucoup. Ça aurait plus de gueule que des inondations à Toulon. Réenchantez-moi ça, je veux de l'érotisme.
Tanguy Pastureau dans la bande originale de Nagui et Leïla Kadour Boudadi du lundi au vendredi à midi 10. Ils reçoivent tout à l'heure Anne Charrier pour la pièce Rose Royale actuellement au studio des Champs-Élysées à Paris. Dans une poignée de secondes, le journal.
Tous les dimanches soirs sur France Inter,
j'ai choisi quelques grandes voix de la littérature africaine.
Alama Bankou et ses admirations littéraires.
Parmi les femmes fortes de l'Afrique en littérature, il y a cette grande dame, Mariama Ba.
Alama Bankou nous lit les textes qui l'inspirent.
C'est une langue poétique avec un lyrisme et une force des images qui resteront gravées dans votre mémoire.
Les admirations littéraires d'Alama Bankou, c'est ce dimanche après le journal de 19h sur France Inter.
5h28 sur France Inter et voici Ali Badou qui est arrivé dans
mais
le
oui,
studio.
Mais oui, bonjour Marion.
Bonjour Ali, pour me donner le programme du 6-9 aujourd'hui.
Le programme à 6h20 à l'occasion des 40 ans des Restos du Cœur. Vous recevrez le président des Restos, Patrice Douré. La révolte des patrons à 7h45, ce sera dans le débat éco avec Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, un grand entretien spécial consacré à la condamnation de Nicolas Sarkozy avec nos invités. Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, par qui l'affaire est arrivée, Jérôme Jaffray, qui est politologue et chercheur associé au CEVIPOF, et Sarah Guibaudot, la chef du service police et justice de France Inter, les enjeux de cette condamnation historique. On verra ça avec eux, donc, dès 8h20. Vos appels, vos réactions, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou sur l'application de France Inter.
Eh oui, à tout à l'heure, Ali.
À tout à l'heure, Marion.
France Inter, il est 5h29. Merci. Le journal, Anne-Sophie Balbir. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour à tous.
Je n'ai pas peur, la peur est l'arme des tyrans. Déclaration aux États-Unis de l'ancien patron du FBI.
James Comey vient d'être inculpé, notamment pour entrave à la justice. Nommé par Barack Obama, l'ancien chef de la police fédérale avait été brutalement limogé par Donald Trump lors de son premier mandat en 2017. James Comey était dans le viseur de la Maison Blanche. Le président américain se félicite d'ailleurs de cette décision sur son réseau social, Franck Matvon.
Donald Trump s'en est pris très souvent à James Comey. Il reproche surtout à l'ex-patron du FBI d'avoir enquêté sur de possibles liens entre sa campagne en 2016 et la Russie. Trump l'a traité de tous les noms, hier encore, dans le bureau ovale. C'est une personne mauvaise, un malade, selon Trump. L'un des pires êtres humains que ce pays ait connu, écrit-il même hier soir dans un message en ligne. Or, Comey est justement inculpé pour avoir menti au Congrès dans cette affaire d'ingérence russe. Mais à ce stade, rien ne semble étayer l'accusation et un faisceau d'éléments nourrit plutôt la thèse d'une instrumentalisation de la justice par la Maison Blanche. Trump fait pression depuis des mois pour que Comey soit inculpé. La semaine dernière, un procureur de Virginie a été remplacé par une avocate du président. C'est elle qui a supervisé l'inculpation hier de Comey, 5 jours seulement avant l'expiration du délai de prescription pour les charges retenues. Elle avait pourtant reçu l'avis de magistrats locaux, estimant que le dossier contre l'ex-patron du FBI était trop léger. Dans une vidéo, James Comey, d'un ton calme, se dit innocent, assure qu'il n'a pas peur et qu'il attend son procès. Washington, Franck Matvon, France Inter.
Donald Trump s'est entretenu hier avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui est attendu à la tribune de l'ONU ce vendredi. Le président américain assure être proche d'un accord sur Gaza et même de la paix. Par ailleurs, Donald Trump affirme qu'il ne permettra pas à Israël d'annexer la Cisjordanie occupée. Ça n'arrivera pas, dit-il. Cette mesure est réclamée par des ministres israéliens d'extrême droite en représailles à la reconnaissance d'un État palestinien par plusieurs pays, dont la France. La présidente du tribunal correctionnel de Paris insiste suite à la condamnation de Nicolas Sarkozy. Les faits sont d'une gravité exceptionnelle, dit-elle, de nature à altérer la confiance des citoyens. L'ex-président de la République écope de 5 ans de prison, reconnu coupable d'association de malfaiteurs dans le dossier libyen. Il a l'intention de faire appel, mais ça n'empêchera pas son incarcération. À quelle date? Il le saura le 13 octobre lors d'une convocation par le parquet national financier. Le placement en détention devrait ensuite intervenir dans un délai de 4 mois, a priori à la prison de la santé, dans le 14e arrondissement de Paris. Cette décision doit maintenant être respectée, selon le député Génération Benjamin Lucas.
Ça prouve que nous sommes dans une démocratie, un état de droit, une république dans laquelle la justice exerce son autorité de façon indépendante et impartiale. Je crois que c'est de nature à rassurer nos concitoyens dans un moment où nos institutions sont remises en question. La justice est passée et maintenant il appartient à toutes celles et tous ceux qui aspirent à exercer des responsabilités ou qui en exercent de la respecter pour respecter nos institutions. Moi je suis frappé de voir des responsables politiques qui font fi de la séparation des pouvoirs, se transforment en commentateurs judiciaires du dimanche pour remettre en cause l'autorité judiciaire à la manière d'un Trump. C'est assez dangereux. On est dans un moment où nos compatriotes doutent des institutions de la République, doutent parfois de l'impartialité de la justice. Là, il y a démonstration qu'elle a fait son travail. Il faut respecter cela. Il faut ne pas aujourd'hui rajouter de la tension dans la société.
Benjamin Lucas, joint par Manuel Ruffez, les associations de lutte contre la corruption, Sherpa, Transparency International et Anticor saluent un jugement historique.
Et dans l'enquête sur l'enlèvement de Lucie, 12 ans dans l'Orne, le suspect est en garde à vue.
La jeune fille a été retrouvée avec lui hier en Loire-Atlantique après le déclenchement d'une alerte enlèvement. L'homme de 34 ans a déjà été condamné pour des faits de violence sur mineurs. D'après les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille entretenait des relations avec lui. Il s'agit d'un ami de son père. Selon le procureur d'Argentan, elle doit être entendue, prise en charge en qualité de victime et restituée à ses parents. À l'issue. Le journal Le Parisien aujourd'hui en France ne paraîtra pas ce vendredi. Le personnel est en grève en raison d'un projet de vente du quotidien au groupe Bolloré. Au début du mois, journalistes et syndicats avaient écrit une lettre ouverte à leur propriétaire Bernard Arnault, PDG de LVMH, dans laquelle ils exprimaient leur inquiétude de livrer, je cite, à une idéologie militante d'extrême droite, un des grands quotidiens du pays. Et puis les obsèques de l'actrice franco-italienne Claudia Cardinale auront lieu mardi à 14h30 30 à l'église Saint-Roch dans le 1er arrondissement de Paris, une semaine après son décès à l'âge de 87 ans. Un hommage religieux lui sera également rendu mercredi à Nemours en Seine-et-Marne où elle résidait. Elle sera incinérée dans la plus stricte intimité familiale.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonne journée Anne-Sophie, bien à l'abri car ce vendredi est encore automnal avec des pluies sur l'est et des températures sous les normales, éclaircies sur l'ouest, plus large sur le sud aquitain et nuages donc sur l'est. Des averses de l'Auvergne au nord-est en passant par le centre Val-de-Loire et sur la façade est. Ces pluies seront marquées des Alpes à l'Alsace avec même de la neige au-dessus de 2000 mètres sur les Alpes. Le vent d'ouest est sensible sur les côtes de Provence, Alpes, Côte d'Azur. Côté température, c'est frais, donc 4 à 17 degrés ce matin, 13 à 25 cet après-midi, 14 à Nancy, Strasbourg et Limoges, 16 à Paris, Lille, Clermont-Ferrand et Lyon, 17 à Rennes, 18 à Brest, Bordeaux et Nantes, 19 à Biarritz, 20 à Perpignan, 22 à Nice et 25 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
De la douceur ce matin dans la playlist de Mathieu Conquet. Oui. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Vous ralentissez, vous levez le pied, du moelleux, du tout doux avec un certain Jalen Gonda.
Il fait chaud, vous trouvez pas Marion?
Oh,
et on va danser un slow avec Jalen Gonda.
Très bien. Diablé le slow quand même.
Ouais, ça bouge un peu trop pour vous. C'est avec ce morceau que beaucoup l'ont découvert en 2022 en prélude à son premier album Come Around and Love Me qu'on a beaucoup joué ici sur France Inter il y a 2 ans. Il était récemment invité à Paris pour le festival Jazz à la Villette et doucement mais sûrement, Jalen Gonda se ferait un chemin dans le cœur de celles et ceux qui aiment les belles voix.
Et d'où vient cette voix ?
D'Amérique, contrairement à ce que j'ai pu lire. Hein, parfois certains pensent qu'il est anglais, mais non, il est originaire du Maryland. Il a grandi dans une banlieue de Washington. Et puis, à l'âge de 11 ans, il tombe sur un 45 tours, vous vous rendez compte, à son âge,
ouais.
My Girl des Temptations. Et c'est le choc, alors que tout le monde autour de lui, mais c'est normal, écoute du rap, du rock. Et bien, lui, il reste bloqué sur les années 60 et les disques de la Motown. Il va fréquenter une église et jouer même dans un groupe de rock chrétien. Il va ensuite déménager à Liverpool. Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui pensent qu'il est anglais.
Oui.
Voilà, la ville des Beatles, mais c'était pour faire ses études. Il fait des chœurs et tout, mais ça marche pas encore jusqu'à ce qu'il croise les fondateurs du label Daptone Records à New York. Hein. Ceux qui ont fait le son de Amy Winehouse, entre autres, vont assembler pour lui le costume idéal. Et forcément, ça fait penser à une autre silhouette Motown, hein, auquel on l'a tout de suite comparé. Vous avez deviné qui ? Vous allez l'entendre sur le plan vocal, c'est vraiment autre chose.
Come around and love me, c'est la voix de Jalen Gonda. Qui résonne de plus en plus, vous disiez.
Mais oui, on l'entend partout. Il faisait des chœurs chez Joy Crooks, la jeune princesse anglaise. On l'entendra bientôt aussi dans le nouvel album de Gorillaz, où il est annoncé en bonne compagnie entre les vivants et les morts. C'est assez étrange, parce qu'il y aura les voix de Asha Pootley, Bobby Womack, qui est mort, David Jolicoeur de La Soul, mort aussi, et Black Thought, des Roots, bien vivant. Voilà, Jalen Gonda, entre deux mondes, tant sa voix paraît irréelle ou surgit du passé. Alors, son deuxième album paraît imminent, et le premier extrait vient de sortir. Vous allez entendre, ça n'a rien à voir avec La Soul et le gospel, c'est plutôt rocksteady, reggae, mais ça lui va très très bien aussi.
Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do. Make it all about me. I'll make it all about you. Girl, you must have lost your mind, thinking you will find the flame with someone new. Ooh. Oh, yeah. Make it all about me. You won't find love like this. You can search high and low, but you would be remiss. I'm the man you need.
Jalen Gonda, All About Me, dans la playlist de France Inter. Et Mathieu, on vous retrouve dès ce soir.
À 21h, je vous emmènerai Marion des Caraïbes aux États-Unis, du Calypso, au Ska. Je vous parlerai des Américains de Divo.
Divolution, le groupe américain qui avait fait cette reprise des Stones. I can't get no satisfaction.
C'était
génial. La satisfaction, on en aura en vous écoutant ce soir,
c'est
Mathieu.
Promis. Et je remets le son à ce soir.
À 5h40, le grand reportage de France Inter ce matin en Moldavie où dimanche vont avoir lieu des élections législatives cruciales pour le pays. Dans cet ex-pays de l'URSS, à la frontière de l'Ukraine, pays candidat pour intégrer l'Union européenne, le parti pro-européen au pouvoir doit affronter des formations téléguidées depuis Moscou pour freiner le processus d'intégration européenne. Et tous les moyens sont bons, à commencer par la désinformation, comme vous avez pu vous en rendre compte dans la capitale Chișinău, Virginie Pierronon.
En plein cœur de la ville, devant le siège du gouvernement où flottent drapeaux moldaves et européens, impossible d'ignorer ces élections. Partout, des tentes dressées aux couleurs de chaque parti politique. Une étoile rouge frappée du marteau et de la faucille, par exemple, pour la coalition pro-russe du bloc patriotique. Dans un pays où 40% de la population est russophone, l'influence du Kremlin n'est jamais loin. Casquette belge sur la tête, Efimia, 74 ans, milite pour le PAS, le parti pro-européen de la présidente Maya Sandu.
C'est un choix entre l'Europe et le mal. Nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Mais vous devriez entendre ce qu'ils disent, que Maya Sandu nous mène à la guerre, que si on rejoint l'Union européenne, on deviendra pauvre, que nous n'aurons plus de gaz, plus d'électricité.
Via les réseaux sociaux, TikTok, Telegram, Facebook, la désinformation est à un niveau jamais atteint, ciblant pêle-mêle l'OTAN, l'Union européenne et la présidente moldave.
Maya Sandu se confronte avec une nouvelle offensive de désinformation lancée de Moscou.
Présentée par exemple comme homosexuelle et qui aurait acheté aux États-Unis pour faire un enfant du sperme de célébrités comme Elton John ou Ricky Martin. Dans son bureau de l'Assemblée nationale, Radu Marian, député, vice-président du parti de Maya Sandu, candidat à sa réélection, nous explique comment il a été lui-même victime d'un deepfake. Un faux enregistrement qui prouverait ses liens avec un oligarque et politique véreux qui a longtemps tiré toutes les ficelles en Moldavie, Vladimir Plahotniuc, arrêté en Grèce en juillet dernier.
Ils ont recréé ma voix grâce à l'intelligence artificielle. Ils ont fabriqué une conversation de toutes pièces entre moi et ma mère. C'était tellement bizarre et choquant qu'ils impliquent ma mère là-dedans.
Dans cet océan de fausses nouvelles, les autorités moldaves diffusent à leur tour des avertissements, en roumain mais aussi en russe, comme dans cette vidéo, qui appelle les citoyens à redoubler de vigilance.
Alors il y a la désinformation, Virginie, mais il y a aussi les achats de voix qui gangrènent ces élections.
Sur le marché de Komrat, à 80 km au sud de Chișinău, une région russophone, certains retraités ne cachent pas leur admiration pour Ilan Shor, oligarque pro-russe, accusé d'avoir volé 1 milliard d'euros à des banques moldaves. Réfugié en Russie, son parti a été interdit en Moldavie, où il continue pourtant à distribuer ses largesses.
Il aide les gens, vraiment.
C'est un homme de parole. Il aide avec de l'argent. Les retraités sont très contents. Pourquoi ils ont décidé d'interdire son parti ?
Une voix serait rémunérée 50 euros environ. Andrei Kurararu travaille à Chișinău pour le cercle de réflexion Watchdog.
L'influence d'Ilan Shor est énorme. Je pense qu'il est le cerveau derrière le réseau d'achat de votes. L'année dernière, la police a comptabilisé 140 000 comptes bancaires créés en Russie via la banque Promsvyazbank. Ils n'ont pas pu servir à autre chose qu'à verser des pots de vin.
Et cette année, la situation devrait encore empirer, selon le gouvernement. Même certains prêtres orthodoxes, sous obédience russe, font partie intégrante de ce système d'achat de voix. Les experts rencontrés ici avertissent, la Moldavie, disent-ils, sert en ce moment de laboratoire à la Russie, qui compte bien ensuite exporter son savoir-faire, entre guillemets, partout en Europe, y compris en France.
Et c'était le grand reportage de Virginie Pierronneau en Moldavie où les élections législatives subissent les ingérences russes. Il est 6h moins le quart sur France Inter. C'est l'heure de contacter notre invitée déjà debout, organisatrice d'un festival de courts-métrages à Entraigues-sur-Sorgue dans le Vaucluse. Bonjour Marie-Hermine Tarel.
Bonjour Mathilde.
Ah, c'est Marion.
Ah, Marion, ah, pardon, excusez-moi.
Mais ravie de vous avoir aussi.
Ah, mais voilà, c'est l'émotion.
Et pourquoi êtes-vous déjà debout?
Alors, parce que les journées sont trop courtes pour tout faire, donc j'empiète un peu sur les nuits. Et puis parce qu'aujourd'hui, le festival commence avec une invitation aux enfants d'une école. Donc aujourd'hui, on va recevoir déjà 200 enfants pour une projection spéciale lors de laquelle ils vont élire leur court-métrage préféré. Mmh.
Alors, faut dire que vous n'êtes pas seulement organisatrice de festivals de court-métrage, hein, pour vous présenter un peu, vous avez quand même plusieurs vies, vous.
Un petit peu, oui. En fait, je suis pas organisatrice, hein. Je fais partie de l'association.
De l'association, vous êtes secrétaire de l'association.
Voilà, c'est ça.
Et donc, vous êtes aussi directrice de crèche.
Tout à fait, voilà.
Et membre d'une autre association.
Oui, qui s'appelle Cœur de Parrain et qui me tient à cœur. Voilà, une association qui permet à des enfants de prendre un peu de bon temps avec un parrain ou une marraine et sortir du quotidien, découvrir d'autres choses que ce qu'ils peuvent faire dans leur vie ou en famille ou en foyer quand ce sont des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, par exemple.
Alors, celle dont on parle aujourd'hui, c'est le Choix des Anges, l'association qui organise le festival à Entraigues-sur-Sorgue aujourd'hui et demain. En quoi est-ce qu'il consiste précisément? Vous nous avez parlé des projections ce soir pour les enfants qui s'appellent le Choix des Angelots.
Voilà, alors c'est toute la journée, on fait en deux groupes, et demain soir, c'est le festival en lui-même, il y a une soirée de projection de courts-métrages à laquelle participent des cinéastes qui ont présenté leurs films, mais pas que, puisqu'on est parrainé par Antoine Coessens et par Christophe Leroux. Antoine est acteur, Christophe Leroux est actrice, elle est aussi réalisatrice et scénariste de courts-métrages. Voilà. Et on a une invitée spéciale cette année qui est Nelly Clastrier, pardon, qui est en cours de tournage avec Antoine Coessens et qui du coup sera présente aussi au festival. Et puis on aura d'autres réalisateurs et producteurs présents. Et donc le public va visionner les 16 courts-métrages qu'on va proposer, qu'on a rigoureusement choisis et difficilement choisis.
Parmi beaucoup, hein.
Plus de 700, oui. Ouais. Plus de 700 courts-métrages venus un peu partout dans le monde.
Donc la crème de la crème, à la fin.
C'est de ce qu'on a reçu, de ce que nous, on a pensé, qui pourrait plaire au public. Et franchement, cette année, moi, je me dis, heureusement que je ne suis pas dans le public. Parce que s'il fallait n'en choisir qu'un, je serais bien embêtée.
Parce qu'il y a beaucoup de qualité, si je comprends bien.
Des pépites à mon goût, mais voilà.
Et il y a un thème particulier ou c'est vraiment extrêmement varié?
Alors non, on fait en sorte que ce soit pas ennuyeux, que ce soit varié. Donc on a des cours très courts de 2 minutes, on a des cours plus longs, le maximum autorisé dans le règlement étant 18 minutes. Et on varie pour que la cadence soit intéressante et les thèmes et la façon de les techniques aussi. Moi, je suis pas du tout une technicienne du cinéma, hein, donc comme le public et comme beaucoup de membres du comité de sélection, on est plutôt au coup de cœur et à ce qu'on aime. Et en fait, les thèmes sont variés. Il y a des thèmes de société, il y a des films d'animation qui parlent aussi de société, il y a de l'environnement, il y a un film aussi, par exemple, sur... je ne vais pas tout dévoiler, mais après le programme est dans le site, donc les personnes qui viennent au festival ou qui viennent pas ont déjà la liste des films qui seront présentés avec les synopsis. Non, mais ça, c'est très varié. C'est pas, il y a pas de danger de s'ennuyer ni de s'endormir lors de la soirée, quoi. En gros, c'est ça. Même si la soirée est longue, puisque ça commence à 19h pile, il faut y être un peu avant, et que le temps de regarder les films, le temps de faire un entracte qui est dînatoire, on offre une collation au public avec l'aide des partenaires qu'on a sollicités et qui, voilà, c'est un travail aussi en amont. Et pendant qu'on dépouille les bulletins de vote en fin de soirée, le public peut discuter avec les cinéastes présents et qui sortent de l'ombre pour devenir des VIP à ce moment-là, une fois que les votes sont faits, parce qu'on veut pas influencer le public en disant, ben voilà, il y a tel film dont le réalisateur est présent ou pas, voilà. Et donc, et avant de partir, tout le monde sait qui a gagné le prix du choix des anges.
Et donc, on verra ça ce soir et demain soir. Merci beaucoup, voilà. Marie-Hermine Tarel. Vous êtes à Vedène, dans le Vaucluse. Vous organisez donc ce festival de courts-métrages à Entraigues sur la Sorgue. C'est ce soir et c'est demain, on l'a bien compris. Merci beaucoup de nous avoir rappeler sur France Inter.
Merci et bonne journée à tout le monde.
Bonne journée.
Et équipe de France Inter.
Ah, merci beaucoup. Ah. Après le Vaucluse, donc direction la Belgique avec le groupe rock et pop flamand Balthazar. Losers, c'est le titre qu'on écoute sur France Inter. Du groupe Balthazar, extrait de leur album Send, sorti en 2021.
France Inter, le 5-6.
Et c'est l'heure de déguster notre café philo en bonne compagnie. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lour.
Allez, puisqu'on est entre filles, on parle chiffon ce matin.
Vous vous moquez, mais le sujet est pourtant sérieux.
Je vous taquine. Au programme donc du café philo, la mode considérée sous un angle philosophique.
Oui, depuis quelques années déjà, la mode est un sujet d'étude à part entière, un sujet sérieux même, je vous le disais. Et quand je dis depuis quelques années, c'est pas exact. Platon déjà en parlait dans la République. Oui, alors pas forcément en bien, puisqu'il pensait lui que la mode est condamnable et matière à excès. Et Socrate, avant lui, rejetait l'artifice du costume qui pouvait rendre beau quelqu'un qui n'était pas naturellement. On a franchement le droit de ne pas penser comme lui, et heureusement, depuis les choses ont changé.
Et puis il y a des cours très sérieux sur la mode qui sont même donnés dans le monde entier, hein, y compris dans des prestigieuses universités comme Harvard.
Un des invités de leur philo ce soir a effectivement donné un cours à Harvard sur le thème nature et couture. Ça en jette, non ?
C'est chic.
Bon, la mode est une philosophie du réenchantement, la haute couture est du grand vantard, sans parler des savoir-faire qui la nourrissent. Hein. Combien de métiers sont à l'œuvre dans ce domaine? Alors, je sais, on peut critiquer une manifestation comme la Fashion Week, qui aura lieu à partir de lundi prochain. Ses excès, son extravagance, son mauvais goût parfois, mais en général, c'est plutôt pour des raisons liées à l'environnement qu'on la critique. Mmh. Ceci est un autre sujet qui mérite évidemment qu'on en tienne compte. Il reste que la mode est un langage, une matière qui parle, des formes qui vivent. La mode peut et doit être conçue comme une forme de philosophie. Eliot Cox est un jeune designer, jeune mais confirmé. Il a déjà beaucoup réfléchi à son sujet, et notamment à cette question, est-ce que la mode est une projection sur l'avenir ? Eliot Cox.
Est-ce que c'est une projection sur l'avenir ? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense que c'est plus une question d'observation de l'instant présent. En tant que designer, je me suis posé la question de quel était mon métier. Et la meilleure réponse que j'ai trouvée avec moi-même, c'est que beaucoup de personnes pensent qu'un designer est une personne qui est payée à avoir des idées. Et je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'un designer, c'est quelqu'un qui est capable d'observer la société dans laquelle il vit et de la comprendre peut-être un peu mieux que la majorité des gens qui l'entourent et qui du coup peut proposer quelque chose qui correspond à cette société. Et du coup, potentiellement, c'est à ce moment-là qu'on se dit genre « Ah, il est visionnaire !» parce qu'il a proposé quelque chose que personne d'autre avait vu avant. Mais c'est plus qu'il a été capable d'observer de la bonne manière la société dans laquelle il vit à l'instant présent. Et je pense dans ce sens-là qu'un couturier ou un créateur, quand il propose une pièce, c'est pas tant qu'il se projette dans le futur, mais c'est au contraire qu'il s'ancre dans le présent.
Le designer Eliot Cox qui s'ancre donc dans le présent pour imaginer des nouveaux vêtements. Deux invités dans leur philo ce soir, Patricia. Le philosophe Emanuele Coccia pour le livre qu'il signe avec le styliste Alessandro Michele, styliste italien et ancien de chez Gucci. La vie des formes, philosophie du réenchantement chez Flammarion. Et puis l'historienne Sophie Curdjian, autrice de La mode au cavalier bleu. On vous retrouve donc ce soir.
À ce soir, merci Marion.
20h10.
Les plages archibondées. Les restos réchauffés, les hôtels mal notés, les touristes énervés. Et non, prenez plutôt de la distance avec les voyages ordinaires. Le salon des véhicules de loisirs, c'est le plus grand choix de camping-cars, vannes, fourgons aménagés et caravanes au parc des expositions de Paris-le-Bourget du 27 septembre au 5 octobre. Profitez de billets à 9 euros au lieu de 15 sur salonvdl.com. Avec les véhicules de loisirs, partez là où les autres ne vont pas.
Alors, ta journée ?
Super.
Ouais, t'as l'air content, dis donc.
Bah, tu sais, dans ma classe de CE1, l'élève qui a du mal avec l'écriture ?
Oui.
Et bah, ce matin, il a terminé sa dictée dans les temps et avec une seule faute. Ça y est, je crois qu'il a eu le déclic. Il était super fier.
Bah, toi aussi, tu dois être fier.
Très fier, même.
Inscrivez-vous dès maintenant au concours pour devenir professeur sur devenirenseignant.gouv.fr. Les concours sont désormais accessibles aux étudiants de licence 3 qui suivront un master rémunéré pendant 2 ans. Ceci est un message du gouvernement.
5h57, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La météo avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso fabriquées en France et ses doses en papier naturel. À retrouver sur malongo.com.
Bienvenue Céline. Donc, quoique, on prend les mêmes et on recommence.
Oui, c'est ça, parce que la carte d'aujourd'hui ressemble sensiblement à celle d'hier, ce qui veut dire qu'on aura encore pas mal d'averses, et ça toute la journée, entre l'Île-de-France, la région centre, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté. Elles déborderont également sur le nord des Alpes, apportant un petit peu de neige au-dessus de 1900 mètres. Pour les autres, ciel mitigé, nuages, timides éclaircies, hein, je dis bien timides, et quelques gouttes, sauf des Landes à la Méditerranée, où là le soleil sera un petit peu plus présent et le temps plus sec, on aura à peine une averse sur le relief corse. Et avec des températures fraîches ce matin, 7 à 12 degrés de Millau à Tarbes, 13 à 16 quand même près de la Méditerranée.
Et des valeurs qui ne vont pas beaucoup grimper cet après-midi.
Non, on va rester 5 degrés sous les normales de saison, 12 à 18 degrés du nord au sud. On gagne quand même quelques degrés, 12 degrés à Paris hier, il en fera 15 aujourd'hui, mais ça reste timide pour la saison. Plus au sud, je vous ai dit, du nord au sud 12 à 18, ça c'est que pour la moitié nord. 15, 17 à 25, ça c'est pour la moitié sud, la maximale étant pour Ajaccio. Et pour le ciel, vous l'avez compris, c'est à peu près le même scénario que ce matin, avec peut-être un petit peu plus d'éclaircies sur les côtes pour cet après-midi.
De la neige quand même.
De la neige, 1900 mètres ce matin, ça, cet après-midi, dingue. La neige va également gagner les Alpes du Sud.
Bah, merci,
à partir de 2200 mètres. Si vous en voulez plus, je vous en donne plus. Hein.
Ah, oui, bah, vous nous direz ça tout
mois du week-end, si vous voulez.
Et donc voici venir Ali Badou, qui est de retour pour démarrer ce 6-9 avec
bonjour
moi.
Bonjour Marion.
Bonjour.
Au programme ce vendredi, les 40 ans des Restos du Cœur. À 6h20, vous recevrez le président des Restos, Patrice Douré. La révolte des patrons sera au sommaire du débat éco à 7h45 entre messieurs Thomas Porcher et Dominique Seux. Et à 8h20, grand entretien consacré à l'actualité du jour, la condamnation de Nicolas Sarkozy, avec nos invités Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, Jérôme Jaffray, qui est politologue et chercheur associé au CEVIPOF, et Sarah Guibaudot, qui est la chef du service police et justice de France Inter. Question au 01 45 24 7000 dès 7h ou sur l'application
France Inter, il est 6h.